samedi Sabatier, l'interview. Des mots pour le dire, avec Jean-Marie Bigard, à l'affiche du film « Vive la crise ».
Vous le savez, mesdames et messieurs, d'abord, je vous dis bonjour le samedi entre 12h et 13h. Pendant une heure, on a la chance d'avoir un acteur, un chanteur, une personnalité qui vient au micro. On lui laisse le temps de parler. C'est la grande interview de la semaine. Et là, aujourd'hui, c'est Jean-Marie Bigard qui vient, car nous serons mercredi au cinéma avec lui dans Vive la crise. Jean-Marie, bonjour.
Et bonjour, comment tu vas, Patrick?
Et toi?
Bien, très bien.
Toujours
c'est toujours
plaisir,
un bonheur d'être avec toi.
Et moi, toujours plaisir. Et en même temps, je vais te dire un truc, c'est émouvant, parce que on vieillit ensemble. Tu vois ce que je veux dire?
Bien sûr. On
avance ensemble, quoi.
Oui.
Chacun dans son domaine. Alors, le principe est simple. Il y a une tablette. Il va y avoir des mots qui vont apparaître. Moi, à chaque mot, je dois trouver une question. Évidemment, j'ai un peu quand même préparé l'émission.
Bien sûr.
Pas trop, parce que je
pas
pense
plus que ça, pour garder du naturel.
Voilà, l'important, c'est la réponse.
Oui.
Alors, on commence par le premier mot.
Alors, le premier mot, je t'aime. Et...
Je voudrais savoir à qui tu l'as dit la dernière fois.
À ma femme. Mais une trentaine de fois par jour, avec à chaque fois... C'est une adoratrice de Proust, donc elle aime bien les adjectifs, les descriptifs, les choses. Donc, tu vois, je dis pas juste comme un con, je t'aime, tu vois. J'ai toujours agrémenté de quelque chose. Tu vois, je lui dis qu'elle va être la plus grande star de la planète, qu'il n'y aura pas d'Oscar assez brillant pour récompenser sa carrière. Tu vois, et je lui dis, je la rassure sur son avenir, je la félicite pour être une comédienne fabuleuse, pour être un Stradivarius, voilà. Et Dieu sait si elle me pète les couilles à la maison, je te le dis.
Est-ce qu'on t'a beaucoup...
Je te parle pas ni du Botox, ni des extensions, ni tout le bordel.
On parle de Lola.
Le porte-monaie, hein.
On parle de Lola Marois.
De Lola Marois qui joue dans le film Vive la crise. Lola Marois qui m'a casté.
Oh.
Savoir, c'est elle qui m'a casté dans le film.
C'est-à-dire,
elle est prise, elle fait un casting, on la trouve, Jean-François Davy la trouve formidable, son assistant aussi. Et puis elle dit, tiens, viens me voir jouer, je joue dans la pièce de Laurent Baffy. Et elle dit, mon mari, comme ça tu pourras le faire connaissance. Ah ben, elle dit, génial, elle arrive, on regarde la pièce. Lola, évidemment, est merveilleuse. Et dans la bouche de Laurent Baffy, ça donne, dis donc, tu t'es bien démerdé, poulette. Et tu t'es bien démerdé, poulette, c'est, tu vois, l'Oscar, c'est juste au-dessus de l'Oscar planétaire. Tu t'es bien démerdé, poulette. C'est-à-dire qu'il lui a fait jouer cette pièce, il a donné un DVD, et elle a fait une après-midi de répétition. Et elle jouait le soir. Je sais pas si tu vois.
Tu t'es bien démerdé, poulette.
Donc tu t'es bien démerdé, poulette, elle le méritait, tu t'es bien démerdé, poulette. J'ai envie de le faire en forme de trophée. Tu t'es bien démerdé, poulette. Et donc, évidemment, il la trouve merveilleuse, et puis on fait connaissance. Et lui, il lui manque dans son casting le personnage de la Boétie, qui est un type comme ça, à la cinquantaine, qui va se faire jeter comme une merde de son boulot.
Alors justement, ça s'appelle Vive la crise, on va en parler dans un instant.
Oui.
Film de Jean-François Davy, je voudrais simplement, pour compléter le premier mot et la première question, est-ce qu'on t'a beaucoup dit, toi, je t'aime?
Oui. Tu sais, c'est quand j'ai un petit moment de désespoir, ou que tout d'un coup je me dis, tiens, et si je tombais en scooter, et que j'aille me reposer à l'hôpital 6 mois, par exemple, tu vois. Il y a quelqu'un qui me dit qu'il m'aime, je te jure.
On va écouter juste ce que vous allez voir mercredi prochain au cinéma. Sur l'écran noir de nos nuits blanches, moi je me fais du cinéma, sans pognon et sans caméra. C'était une chanson de Nougaro, on est à la radio, mais voici l'image.
Licencié voulait dire virer.
Les salauds, ils ont réduit mon RSA de moitié, c'est à cause de la vente des petits avions.
Du travail? Où ça, du travail?
J'en tire les conclusions en décidant de mettre fin à ma fonction présidentielle.
On s'en fout, on n'est pas croyants.
Il faut créer un nouveau mouvement, celui des désobéissants.
Des désobéissants, non.
Soyons résolus de ne plus servir et nous serons enfin libres.
Je trouve quand même qu'on devrait tous avoir droit à un minimum de bonheur garanti.
Alors ça, c'est Dominique Pinon qui donne cette réplique et qui est le film, quoi. On devrait avoir le droit au bonheur.
Oui, exactement. C'est-à-dire, on est à un stade où on est tellement bouffé par l'administration, par les contraintes, par les règles, par les lois. Il y a un moment, on peut plus respirer. On dit, attendez, laissez-moi juste respirer. Tu vois, ce film, il a un cousinage assez énorme et toute proportion gardée, bien sûr, parce que je compare un film monstrueux qui est le plus beau film depuis que le cinéma existe. Tu vois, j'ai pas peur des mots. Si j'en emmène qu'un sur l'île déserte, c'est ce film. C'est Brazil de Terry Gilliam.
Ouais.
Et c'est un film tellement futuriste qu'il nous raconte l'humanité, qu'on a les choses qu'on va vivre, nous. Il est encore en avance. Il doit avoir 38 ans, ce film. Et tout le monde soupçonne tout le monde d'être un terroriste. Et la logique administrative va venir à bout, comme un étau effroyable, va venir à bout même de l'amour et de nos rêves, même de nos rêves. On n'aura même plus le droit. Et ce film, qu'il faut aller voir impérativement, on devrait le ressortir tous les ans pour dire, regardez vers quoi on va. Tu vois, dans ce film, il y a une bombe qui explose dans un restaurant, le maître d'hôtel, il arrive complètement désolé, il met 2-3 paravents, il y a du sang partout, tu vois, il dit, excusez-nous, hein, ça ne nous arrive jamais. Alors, en entrée, qu'est-ce que je vous sers, tu vois? C'est dans ce monde-là, vraisemblablement, c'est un monde vers lequel on va tout droit. Eh bien, il faut quand même que les gouvernants, quels qu'ils soient, hein, et on est entre les deux tours, mais il faut qu'ils sachent que si on fait vraiment trop chier les gens, si on leur retire cette petite bouffée d'oxygène qu'on a tous le droit d'avoir, eh ben un jour, les gens, ils vont se mettre à réfléchir, ils vont descendre dans la rue, et ça sera vraisemblablement le chaos. Et ensuite, une amélioration, parce que après chaque chaos, après chaque guerre, l'humanité redevient humaine. Tu sais, quand toutes les maisons sont par terre, après la guerre, on se souvient, la génération de nos parents...
Et on se tend la main,
on reconstruit, donc on dit, ouais, on va aider machin, on va aider truc, et puis on y va 20 heures par jour.
On va écouter Florent Pagny, qui est un des choix de Jean-Marie Bigard, puis on va continuer, bien sûr, à parler avec lui. Florent Pagny, c'est la chanson française, MFM Radio, c'est la première radio sur la chanson française. Tout ça se marie bien.
Samedi Sabatier, l'interview, des mots pour le dire sur MFM Radio.
Alors... Après Je t'aime, après donc le film Vive la crise, un autre mot, ça ne m'a jamais fait rire. Qu'est-ce qui ne te fait pas rire du tout, toi qui es un maître de l'humour et qui, j'allais dire, a été même un chef de file pour beaucoup de jeunes aujourd'hui, ouais, de l'humour.
Et je peux te répondre une réponse surprenante venant de ma part, la vulgarité.
Non, non. Enfin, ça moi, ne ça me fait pas rire. Pas.
Oui. Mais ça ne me fait pas rire du tout quand c'est la vraie vulgarité. Ça ne me fait pas rire, ça me fait mal aux yeux, ça me fait mal au cœur, ça me fait mal partout, tu vois. Quelqu'un qui manque d'élégance, ça me fout de l'urticaire géant, tu vois.
Et la vulgarité, on le voit pas toujours au premier abord.
Non, ça, elle est souvent drapée, bien habillée. Tu sais, c'est le mec qui, il arrive vers toi, il dit, hey, bonjour, c'est Bigard. Tu as ta femme au bras, tu vois, elle est pas 5 mètres plus loin, tu l'as au bras, et il s'adresse à toi et ne salue pas la personne, par exemple, qui est avec toi. Je le coupe, je dis, la dame là qui est à côté, c'est ma femme. Bonjour madame. Et bonjour madame. Bah oui, faut dire bonjour, c'est plus poli.
Alors, un autre mot.
Ah, non, un autre mot, c'est décidément.
Fontaine-Lui-Hier, 17 mai 1954,
ouais,
c'est dans l'est de la France, c'est là où tu es né.
Ouais.
Est-ce que c'est si loin que ça?
Non, parce que la vie passe très, très, très vite. Et je suis d'ailleurs en larmes quand je regarde ce mot, parce que Fontaine-Lui-Hier n'existe plus. Je fais partie des gens qui ont vu leur commune de naissance. Moi, je suis né à Fontaine-Lui-Hier. Eh bien maintenant, sur ma carte d'identité, c'est marqué Charmont-sous-Barbuise. C'est le bled d'à côté qui était plus gros et qui, en fait, a absorbé Fontaine-Lui-Hier. Donc, on se retrouve beaucoup des personnes âgées qui sont choquées quand tout d'un coup ils disent « Mais non, je ne suis pas né là, je suis né là. Ben, » Moi, c'est mon Fontaine-Lui-Hier. C'était là qu'habitaient mes grands-parents et mes parents pendant un temps. Je suis né là-bas. Avec l'instituteur qui a puni mon grand frère et ma grande sœur, parce que on accouchait à la maison à l'époque, et comme La famille ne voulait pas qu'ils assistent, ils étaient trop petits pour assister à ça, donc 6 ans, genre, et 8 ans, quoi, pour mon frère. Ils ont donc été punis. Donc je suis arrivé au monde en punissant déjà mon grand frère et ma grande sœur. Instituteur, vous n'avez pas été gentil, vous êtes retenu. Elle dit, mais on n'a pas été gentil de quoi? Parce que c'est comme ça. Vous n'avez pas été gentil. Vous restez là, assis. Donc, ils ont été punis. Ils devaient sortir à 11h de l'école. Et ils sont sortis à midi. Ils se sont fait chier sur un siège pendant une heure. Ils se sont retrouvés collés à cause de moi.
Le temps que t'arrives.
Et ils sont arrivés à la maison. Et alors, ils savaient que maman a préparé quelque chose parce qu'elle avait un gros ventre et tout, bien sûr, hein. Donc, quand ils sont arrivés, on dit, ça y est, votre petit frère, il est arrivé. Et ils ont dit, mais il est arrivé comment? Ben, c'est le facteur qui l'a amené. Le facteur, il l'a amené dans quoi? Eh ben, dans une boîte. Regarde, papa et maman, ils ont gardé la boîte. Donc, ils m'avaient mis une boîte à chaussures et avec du coton dedans.
Non, vraiment?
Non, mais vraiment, la vraie vérité. Tu peux pas savoir quel enfant heureux je suis. Et donc, nous, on a regardé la boîte. Mon frère et Anne-Marie, Jean-Pierre et Anne-Marie, il dit, on a regardé la boîte, on l'a trouvée un poil petite. On a regardé, on t'a regardé toi. On a dit, bon, allez, ça va passer, quoi. Ça va encore passer pour cette année. Allez. Il savait pas que c'était un petit diable qui allait arriver dans la famille.
Tu as choisi, mais j'aurais pu le faire à ta place, Alain Bachung.
Bien sûr.
Bon, on est sur une radio qui est numéro 1 dans la chanson française. Alain Bachung, ça reste quand même un des numéro 1 de tout ce qu'il a fait. Et pour notre plus grand plaisir, avant de te retrouver, on va l'écouter.
Samedi Sabatier, l'interview. Des mots pour le dire, avec Jean-Marie Bigard, à l'affiche du film Vive la crise.
Voilà, Alain Bachung avec Ogabi. Qui viennent passer sur l'antenne. Un autre mot, sexe. C'est Jean-Marie Bigard qui est là.
Je vois pas du tout le rapport. Là, je suis sur le cul. On me propose
pas trop quand même.
Nom comme ça, sexe. Mais d'où ça vient? Qui a pensé à me donner ce mot?
Ben
Patrick.
Moi. C'est moi.
D'accord.
Parce que je voudrais vraiment savoir si c'est essentiel. Si tout compte fait, t'en parles, mais en même temps, tu sais le mettre, remettre les choses à leur place.
En plus, tu me tends la perche.
Oui,
est-ce que je sais mettre les choses?
C'est un petit peu pour ça que je suis là aussi.
À leur place, bah oui, bien sûr. Non, mais le sexe, c'est très important parce que c'est grâce au sexe, quand même. Et là, je parle à toute religion confondue, hein. Faut quand même un jour que tous ceux qui écrivent, tous ceux qui prient, tous ceux qui sont dans la religion se disent que, bah oui, le sexe, c'est très important puisque il se trouve que ça nous fait guili-guili dans le ventre. On obtient un orgasme, les hommes, plus souvent que les femmes. Hein. Je rappellerai, évidemment, avec énormément de gentillesse pour la gente féminine en général, que pour que la procréation existe et pour que la race humaine subsiste, il est impératif que l'homme jouisse. Pas forcément la femme. Je connais des femmes qui ont 6 enfants, qui n'ont jamais eu un orgasme de leur vie, hein. Parce qu'ils sont tombés avec un manche, ou un
maladroit.
Gars qui savait pas bien le faire.
Un maladroit.
Et donc, si j'ose dire, et le maladroit qui se gourde de trous, et c'est dans mon spectacle. Et, donc non, le sexe c'est très important. C'est un ciment de toute façon, qui existe entre deux personnes qui s'aiment. Moi, j'essaye de lui redonner ses lettres de noblesse. J'essaye surtout d'aller confondre l'homme, d'aller le débusquer, celui qui est un peu éjaculateur précoce. Il n'y a rien qui fait plus rire que ça, parce que même si on ne l'est pas systématiquement, on l'est quand même de temps en temps. On aimerait bien être un grand limeur, un grand cyclotouriste de la bite. Hein, genre, il y a une petite côte, je change de braquet, et allez hop, je fais dalle, mais on n'est pas tous comme ça. Pour ce qui me concerne, je rassure tout le monde, tous ceux qui nous écoutent. Moi, avant, on m'appelait bite d'acier et langue de velours, et puis maintenant, ce serait plutôt l'inverse, quand même. Hein. Donc, rassurez-vous, pas de panique.
Hein. On a bien fait de parler de ça. Allez, on change de mot. Jamais seul ou toujours seul?
Alors, ça, c'est vachement intéressant. Hein. On est toujours seul, ça c'est sûr. Et On n'est jamais seul parce que nous sommes habités. Tu te rends compte, notre ordinateur, notre disque dur, comporte des milliards et des milliards de compagnons qui sont avec nous. Et je vais me te dire que notre disque dur, il a même les compagnons de tes ancêtres, c'est-à-dire de tes parents, des parents de tes parents et jusqu'aux dinosaures. On a cet héritage génétique qui dure depuis que la vie existe sur la Terre. Mmh. Donc c'est extraordinaire de savoir que ton père et ta mère, pour revenir à la question du sexe avant, entre le spermatozoïde et l'ovule, eh bien le spermatozoïde et l'ovule, quand ils se mettent ensemble et qu'ils fabriquent un embryon, cet embryon, il a absolument l'entièreté de la génétique de ton père, de ta mère, comme eux, ils l'ont reçu de leur père et de leur mère. Je sais pas si tu te rends compte, quand tu te lèves le matin, tu te dis, j'ai dans mon disque dur l'héritage de tous les descendants, c'est-à-dire jusqu'à Adam et Ève, s'ils ont existé, tu vois.
Alors pour,
c'est énorme. Quand tu Alors, dis... tu peux pas dire qu'on est vraiment tout seul, tu vois.
Mais est-ce que tu aimes, toi qui es un homme public, j'aimerais vraiment avoir ta réponse. Est-ce que tu aimes ces instants de solitude? Est-ce que tu aimes ces instants où même tu ne veux plus voir personne, tu as besoin de te retrouver?
Bien sûr, ce sont des moments souvent que j'ai trop souvent loupés. Et en vieillissant, je me dis, c'est pas mal hein, des fois d'être assis sur ta chaise de jardin, tu regardes le soleil se lever, c'est une bénédiction absolue, ou tu le regardes se coucher. Et tu te dis, comme je viens de citer notre beau soleil qui éclaire tout aussi bien un gros connard hein, qu'un mec très bien, ils sont sur la plage tous les deux, l'un à côté de l'autre, il ne fait aucune différence, il fait bronzer les deux, tu vois. Et de se dire, je dois être un disciple de la nature. C'est-à-dire que disciple, c'est pas le doigt sur la couture, c'est être en accord avec cette idée que le soleil n'oublie jamais de se lever, tu vois, la nuit, elle n'oublie jamais de tomber, et c'est pour ça que l'univers subsiste. C'est grâce à cette discipline. Et si moi, au lieu de nager contre le courant, je me noyais, si je me régalais à vivre dans ce rythme-là, eh bien, peut-être que j'aurais moins d'efforts à faire, j'irais peut-être même encore plus loin, me fatiguerais un peu moins, et je goûterais ce délice qui m'est permis de goûter, qui est de vivre, quoi.
On va écouter Jean-Jacques Goldman, que tu as choisi également dans la programmation qui est la tienne, pour cette heure qui était consacrée sur MFM Radio. Et je vous propose de retrouver très vite donc Jean-Marie Bigard.
Midi 13h, samedi, Sabatier. Patrick Sabatier est sur MFM Radio. Samedi Sabatier, l'interview.
C'est surtout samedi Bigard, la peur de ne plus faire rire. Pendant le disque, tu as slidé, donc tu as découvert ça. Et c'est ma question, elle est simple. Est-ce que tu as peur de ne plus faire rire?
Écoute, j'ai trouvé un moyen, qui est pas mal d'ailleurs, que Johnny Hallyday a toujours utilisé d'ailleurs, c'est de s'adjoindre, tu sais, les services du mec qui est en vogue, qui est branché, celui qui est en pleine bourre. Que ça a été Goldman, c'était Goldman, après ça a été Obispo après ça a été M, tu vois. Et je pense que ça, c'est une excellente méthode pour quelqu'un qui n'est pas... ni auteur, ni compositeur, qui est juste le plus fabuleux chanteur qu'on ait jamais eu, notre Jojo, quoi. Je lui fais des bisous s'il nous écoute. Et la peur de plus faire rire, ben, pourquoi mon meilleur spectacle, à 60 balais, j'avais dit tout à l'heure, parce que j'ai pris deux jeunes mecs de 35 balais. C'est simple, ils m'ont rajeuni de 30 ans. Ils ont 35, je vais avoir 63. Et c'est simple, que je leur disais, d'un coup, on débouchait sur une vanne qui avait l'air pas mal, et là, elle me dit non, ben non. Je dis, pourquoi non? Elle dit, parce que je sais pas de quoi tu me parles. Ah merde.
Ouais. Ouais, c'était pas leur époque.
Ouais. Ouais. Ah non, bah, excuse-moi, mais je vois pas de quoi tu me parles, tu vois. Et donc, il s'appelle, je vais pas me gêner pour dire qu'il s'appelle Jérôme Barou et Fabien Delettre. Et avec ces deux petits gars, j'ai travaillé à la radio avec eux pendant une saison complète. Une avec Cyril Hanouna sur Europe 1. Et puis l'autre s'est retrouvé à lire des pièces qu'elle avait écrites et puis de bosser un petit peu. Et ces deux-là, mon cœur balancé entre les deux, j'ai dit, je vous emmène au Cap Ferré. C'est là que j'écris tous mes spectacles. Grande maison à la pointe du Cap Ferré où la lumière n'en finit pas de tomber, hein, que tu connais peut-être. Mmh. Et avec des grandes tables, tu sais, une maison comme on en fait en Louisiane. C'est pas un hasard d'ailleurs, ces gens de là-bas qui sont allés construire, qui ont ramené un peu ce style. Et on peut étaler les feuilles, parce qu'il faut étaler les feuilles, savoir comment ça commence, comment ça finit. L'ordinateur te permet pas, tu le fais, mais il va te donner un timbre-poste sur un petit écran. Moi, je veux une grande table, puis c'est quand je vois de moins en moins bien, comme toute personne âgée, et je veux savoir quand ça commence, et qu'est-ce qu'on met entre les deux. Tiens, ce matin, j'ai une idée, ça va dans quelle case? Ça va dans cette case-là, cette idée. Elle va venir nourrir cette case-là. Victor Hugo travaillait comme ça. Il étalait les papiers sur des tables immenses pour pouvoir faire écrire ses chefs-d'œuvre, tu vois. Misérable, je sais pas combien il a dû mettre de papier pour que les histoires se croisent et s'entrecroisent entre les générations, les guerres et tout. C'est absolument magnifique. C'est une photographie de l'humanité tout entière, quoi.
Et tu te fais rire?
Et bien sûr, écroulé de rire. Je me souviens un jour d'un sketch, je suis avec mon ami Guy Lecluise, qui est le gros dans les ch'tis, hein, que tout le monde connaît. C'est mon meilleur ami avec Laurent Baffy. On s'est connus à la même période et on s'est plus jamais quittés. C'est des frères pour la vie, jusqu'au crématorium.
Guy Lecluise, c'est également Laurent Soda, le
père de Kev Adams.
Kev Adams, ça, mesdames et messieurs, vas-y, excusez-moi.
Et donc, tout d'un coup, on délire sur... Un sketch, c'est toujours une référence. Faut que le traitement soit drôle. Il faut dire un truc vrai. Voilà le message que j'envoie par ton micro à tous les jeunes qui veulent écrire ou faire rire ou faire et qui veulent faire des sketchs qui vont durer et qui resteront dans la légende. Il faut une référence absolue. Si elle n'existe pas, il faut l'inventer. Dire un truc vrai. Et que le traitement, évidemment, soit drôle. J'ai entendu à la radio ce matin, c'est la référence, qu'on avait une chance sur 10 millions de se faire mordre par une chauve-souris enragée. Voilà, c'est ma référence, elle est posée, boum, on n'en parle plus. Le traitement, moi, j'aurais quand même bien savoir, je suis pas curieux, hein. J'aurais quand même bien savoir comment il a fait le gars pour déterminer qu'on avait tous, en moyenne, une chance sur 10 millions... de se faire mordre, parce que bon, admettons que le gars, il connaisse une bande de chauves-souris depuis longtemps, ils sont amis, ils se disent tout, il les a déjà dépannés quand ils étaient dans la merde et tout, voilà, et après tu brodes, et tu vas faire jouer l'inverse du loto, c'est-à-dire que le loto et l'euro-million fonctionnent sur la chance, et j'ai fait fonctionner, c'est en fait la deuxième référence, la malchance. C'est pareil. Si on te dit que tu risques, à la radio, d'attraper un cancer du petit doigt de la main droite, si tu fais pas ça, ça et ça, les gens vont se ruer dans les pharmacies pour acheter la pommade en question. Ils vont dire, pourquoi pas moi? Ben, ça marche pour le malheur, ça marche pour le bonheur. S'il y a une personne, je sais si je l'ai hurlé dans tous mes spectacles, si une personne gagne 64 millions d'euros, à l'euro million, tout le monde joue. S'il y avait 600 000 personnes qui gagnaient chacun 100 000 euros, personne ne jouerait. Moins t'as de chance, plus tu joues. Donc, et ma chauve-souris, ben jusqu'au bout, le mec, il nous explique comment c'est totalement exclu que lui se fasse mordre. Il va finir par se faire mordre. Elle va monter les étages à pied. Elle va arriver, elle va taper à sa porte à lui. Tu vois, et il va l'avoir, il y a un moment, il doute, il dit, elle veut plus morte que moi, là, elle m'a choisi dans l'immeuble. Tu vois,
dans tout ce que tu as chance. Dit, t'oublies l'autre côté, c'est-à-dire le public, on y croit.
Bien sûr.
On finit par y croire. Oui. On croit à l'impossible, à l'improbable. C'est pas possible, mais si,
c'est
pas
possible.
Vrai. C'est pas vrai. Eh ben, si.
Si, c'est possible.
On va écouter Pascal Obispo, puisqu'on parlait du Cap Ferret, c'est le voisin, évidemment. Et après, on retrouve évidemment très très vite Jean-Marie Bigard sur MFM Radio.
Samedi Sabatier, l'interview. Des mots pour le dire, avec Jean-Marie Bigard, à l'affiche du film « Vive la crise ».
Le film sort la semaine prochaine. On va dire merci à Jean-Claude Dreyfus, qui est parfait. Il collectionne toujours les cochons ?
Oui, toujours.
C'est
un gros collectionneur de cochons.
Voilà. Florence...
Et moi, en tant que fils de charcutier, tu imagines bien que ça a tout de suite, la sauce est tout de suite montée.
Alors, je vois qu'il y a aussi Venantino Valentini.
Oui, Venantino Valentini.
C'est
le dernier tonton flingueur vivant.
C'est les tontons flingueurs.
Extraordinaire, ce type, cet Italien d'une élégance qu'il a toujours eu dans tous ses films. Le tueur élégant, tu sais, qu'il faut pas faire chier. Je sais plus quel âge il a, mais... Et il est l'image de ce film, parce que ce vieux bonhomme, il tient bien debout, il a le dos bien droit, il rit, il me rappelle Eddie Barclay, qui était d'une finesse, que je sortais une vanne dans une table de 10, il était le premier à lever la main en disant « je prends, c'est magnifique, c'est génial ». Et une joie de vivre et d'être dans ce film, il arrivait en disant « alors, c'est quoi le texte ?»« Ah, oui, alors c'est ça ». Donc il répétait son texte un peu sur place, tu vois, pendant les premières répétitions, mais heureux d'être là et de porter ce film et de nous donner toutes les intentions qu'on attend d'un acteur qui est supposé être Pirandello, mort en 1800, 600, je sais plus, hein, j'ai perdu la date de Pirandello.
1800.
En 1800, à des points. Et qui explique qu'il est, c'est lui l'auteur de cette histoire. Donc il dit, n'ayez pas peur, je m'occupe de vous. Je vous aime tous.
Un autre mot. Et Dieu dans tout ça.
Dieu est omniprésent. On parlait de la solitude juste avant, impossible d'être seul, puisque Dieu est avec nous de toute façon. Il est omniprésent. C'est un peu ce que dit Vive la crise. Dieu n'existe pas comme un grand-père qui tire les ficelles, à qui on pourrait dire, mais il y a des enfants qui meurent de faim. Qu'est-ce que tu branles, tu vois ? Ce n'est pas une autre personne, tu vois ? Il n'y a pas deux. Dans la vie, je suis pour la philosophie du un, depuis Plotin, qui a écrit là-dessus 200 ans avant Jésus-Christ. La philosophie du un, c'est clair, c'est que le tout est une seule et même chose. C'est pour ça que quand on a une mauvaise pensée, il faut se dire que c'est une tumeur pour l'organisme de l'univers. Tu comprends ? C'est-à-dire que la preuve que Dieu est en nous, c'est que rien ne se perd. Une prière, une pensée d'amour ne se perd pas. Elle continue son chemin. Et elle continue à donner de l'amour. C'est sûr et certain. C'est la multiplication des pains. Tu donnes un sourire, ça ne t'enlève pas ton sourire. Et pourtant, tu l'as bel et bien donné. Je sais si toi tu as un beau sourire, Patrick.
Non mais je voulais te poser une question. Tu crois en Dieu ?
Bien sûr.
D'accord. Tu as toujours cru en Dieu autant que ça ?
Oui, à peu près. Comme c'est un miracle, si j'ose dire. J'ai des parents qui sont catholiques non pratiquants. Je me souviens même pas être allé une seule fois à la messe avec mes parents. Je suis non pratiquant, moi aussi. Mais ils m'ont transmis, c'est le plus beau cadeau que je veux faire à mes enfants, ils m'ont transmis le respect de l'autre, d'aimer son prochain comme soi-même et de pas lui faire un truc que tu voudrais pas qu'on te fasse à toi. Toi, j'utilise exprès les phrases, les paroles de Jésus, mais c'est exactement ça. Et je veux dire pour la 100 millionième fois que que tu envoies de l'amour, cet amour est reçu. Il est reçu, y compris même par les gens qu'on aimait et qui sont disparus. Je suis sûr qu'ils le reçoivent. Je suis ami avec un physicien, Jean-Pierre Garnier-Mallet. Mon Dieu, comme il m'a réconforté avec tout, c'est un pur et scientifique. Et la fusion entre le spirituel et la science, quoi. La philosophie, même simplement déjà dans les sciences, elle est déjà là. On se rend compte, n'importe quel scientifique te le dira, que d'observer la matière influence la matière. Qu'une mauvaise pensée, c'est un couteau qui est lancé, très tranchant, et quelqu'un va le prendre, et il va peut-être tuer quelqu'un d'autre avec. Tu vois, on a une tumeur, nous, en ce moment, qui s'appelle Daesh, par exemple, et cette tumeur s'est métastasée. Et le seul truc qui viendra à bout de cette maladie, faut opérer, à mon avis, donc éradiquer la tumeur, et ensuite, c'est l'amour qui fera le reste. Il n'y a que l'amour qui peut nous sauver. Il n'y a rien d'autre qui peut nous sauver. Et l'amour, je le rappelle pour ceux qui auraient oublié dans le texte, dans la Bible, hein, que je connais par cœur presque, Dieu est amour. On ne devrait pas utiliser le mot amour autrement que pour Dieu. Dieu est amour et nous pouvons. Il nous en donne à profusion. On ne peut pas utiliser tout ce qu'il nous donne. Il nous donne une montagne d'amour dans laquelle on peut venir piocher et ensevelir tous les autres, pardon pour le micro, ensevelir tous les autres sous cet amour. Et si on en veut encore, il nous en donne encore. Mais nous ne sommes pas le propriétaire. Mais en revanche, on en a à profusion. Parce que c'est Dieu qui est amour.
Le premier mot de l'entretien, c'était « je t'aime », on termine par l'amour.
Ah oui.
Ça fait une heure que nous sommes ensemble.
Déjà
ouais.
Tu te rends compte? Quand est-ce qu'on va se revoir, Patrick? Maintenant, je me languis de te revoir, puisque nous voyons que quand on est au boulot, presque.
Ah, parce que tu penses que tu travailles, toi, là? Moi, pas.
Non, mais tu as raison.
Quand on se voit, on ne travaille pas. Nous, on a une chance formidable.
On s'est vu souvent sans travailler.
Oui, hein. Voilà, on a une chance formidable, c'est qu'on a des micros devant nous, mais on aurait dit la même chose sans micro.
Ouais, mais des fois, ça aide pas mal, le micro. Surtout que c'est toi qui poses les questions, chérie.
Eh ben écoute, je t'embrasse.
Tu fais quoi après? T'as déjà eu un rapport avec un vieux?
Non, mais paraît-il qu'il faut tout tenter. Mais peut-être qu'on va prendre le temps.
Ouais, hein,
on va
prenons notre temps.
Prenons le temps.
Privilégions la qualité.
Voilà, prenons notre temps. On réfléchit d'abord, d'accord?
D'accord, okay.
Et puis on se rappelle. Vive la crise, ça sort mercredi prochain. C'est terminé, pas totalement.
Retrouvez le meilleur de Samedi Sabatier, l'interview, dès maintenant sur mfmradio.fr, rubrique podcast.